On continue notre journée avec donc une deuxième table ronde qui là va nous permettre de rentrer dans les établissements scolaires, dans l'école, pour regarder comment est-ce que les enfants et les jeunes sont accueillis, comment ils réagissent à l'accueil qu'on leur fait, etc. etc. Mais comme ce n'est pas moi l'animatrice de la table, je vais pouvoir maintenant vous laisser entre les mains de Sophie Lévrard. Et puis, si vous voulez bien, donc, comme ce matin, vous placez un petit peu sous votre nom, plus ou moins, Sylvie Vengeon, donc Cynthia et Marie Escoffier. Voilà.
C'est bon, c'est allumé là. Oui, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, il me revient la tâche de présenter nos intervenants de cet après-midi et en particulier les thèmes qui vont être abordés suite aux deux ou trois séances. Alors, moi, j'en ai raté deux, mais je crois qu'il y a eu trois séances de travail préalables à cette table ronde qui va donc aborder les enfants et les jeunes migrants dans les établissements scolaires et les lieux de... dans les établissements scolaires, hein, uniquement. À ma gauche, vous trouvez donc Sylvie Vengeon, assistante de service social au collège Mandela et Rouville-Saint-Clair, hein, et au lycée La Place de Caen, membre de la commission de scolarisation allophone pour le département. À sa gauche, Cynthia Van Meck, qui est chef de service urgence protection de l'enfance à la MDEFC, qui encadre aussi un service mineur non accompagné, c'est ça. Et jusqu'à récemment, vous aviez l'intérim en charge donc de la plateforme des mineurs non accompagnés. Je ne me suis pas trompée, c'est parfait, au conseil départemental du Calvados. Et à sa gauche, Marie Escoffier, formatrice permanente au CNAV, un centre académique pour la scolarisation des enfants allophones, nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Au CASNAV, j'ai dit quoi ? Bon, au CASNAV. J'excuse également Valentina Crispi qui devait être parmi nous aujourd'hui, mais qui, du fait des grèves, ne peut pas être présente malheureusement. Donc, on va aborder ensemble deux thématiques. Donc, la première thématique sur l'accueil et l'attente. Donc, on voit que, comme ce matin, on a donc des enfants qui sont donc en famille, donc deux situations différentes, et des enfants qui sont par ailleurs non accompagnés. Hein. Et donc sur trois temps différents, hein, toujours par rapport à cette scolarisation, c'est-à-dire les enfants qui sont en attente de scolarisation. Les enfants une fois qu'ils sont scolarisés et les enfants ensuite qui doivent se projeter dans l'après-scolaire et lorsque aussi la possibilité de rester en France est compromise. Donc sur ce thème 1, sur l'accueil et l'attente, donc on a parlé donc ce matin hein, de la prise en charge quand les enfants arrivent sur le territoire français. Donc là, c'est avant la scolarisation. Et donc, les premières questions auxquelles on vous propose de répondre ici, c'est comment lier les parcours migratoires différenciés, les conditions de vie donc, qu'on a abordées ce matin qui sont compliquées, les accompagnements sociaux différenciés qui ont été évoqués dans la première table ronde avec des propositions éducatives. Tout le temps que les jeunes mineurs non accompagnés attendent la scolarisation, que se passe-t-il ? Comment vous les prenez en charge ? Et quels sont les souhaits et les espoirs des familles ? Donc voilà, je vous propose de répondre à ces premières questions de cette première thématique.
Alors moi, je vais peut-être laisser la parole, parce qu'avant la scolarisation... C'est plus...
Merci. Donc... Oui, alors effectivement, ce matin, on a vu que les jeunes en fait avaient une phase d'évaluation de leur minorité qui était avec de nombreuses difficultés. En fait, le temps de cette évaluation de la minorité, le conseil départemental héberge les jeunes sur un centre collectif qui se situe à Missy, à côté de Villers-Bocage, pour ceux qui se situent. Le temps de cette évaluation, les jeunes ne sont pas scolarisés dans le cadre de l'éducation nationale. C'est un choix du département pour divers paramètres. Toutefois, lors de cette attente, une évaluation... Alors, les textes à l'État dit que l'évaluation de la minorité, elle doit durer 5 jours. La réalité est tout autre. L'hiver dernier, par exemple, on était à 4 mois de délai pour que le jeune puisse savoir s'il était reconnu mineur ou pas. Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près entre 15 jours et 3 semaines. Voilà. Puisqu'il y a le temps, effectivement, de l'évaluation sociale, mais il y a aussi la question de l'authentification des papiers. Et c'est qu'une fois qu'on a tous ces retours, que le jeune peut être reconnu mineur ou non. Donc, qu'est-ce qui se passe le temps de cette évaluation, le temps de cette mise à l'abri, comme on l'appelle ? Il y a des cours qui sont organisés sur le site de Missy où sont hébergés les jeunes, avec des professeurs de FLE, je reconnais certaines têtes dans la salle, où on essaye en fait de fonctionner en termes de niveau. C'est-à-dire que les jeunes ont pu passer des tests qui permettent de les regrouper, puisqu'on a des jeunes qui parlent français, d'autres non, d'autres un peu anglais, d'autres pas du tout. Mais on a aussi des jeunes qui ont été à l'école dans leur pays d'origine et d'autres pas du tout. Voilà, avec tout ce mix... Il y a eu 3 groupes de niveaux qui ont été arrêtés, et donc ce qui permet aux jeunes effectivement de recevoir en tout cas les premiers apprentissages avant de pouvoir être scolarisés. Voilà. L'idée aussi de ces temps de scolarisation, c'est aussi permettre aux jeunes de retrouver un rythme. Le centre de Missy, il permet vraiment aux jeunes, suite à un parcours migratoire long, parfois trop souvent traumatique, de se poser. Malgré tout le stress de la période d'évaluation et de retrouver un rythme, de prendre des repères et aussi au travers de ces temps de scolarité qui sont proposés aux jeunes.
Donc voilà, là ça concerne donc les mineurs non accompagnés, puisque par contre les jeunes qui arrivent avec leur famille, eux s'adressent directement, comme le feront après les services de Missy, à la DSDEN, donc la Direction académique de l'éducation nationale, pour envisager des tests de positionnement qui vont permettre à ces jeunes, qui vont nous permettre de trouver la meilleure orientation possible pour ces jeunes, compte tenu et de leur niveau scolaire et de leur choix de formation professionnelle lorsqu'ils sont plus âgés. Donc là, on a 2 temps différents. On a très peu parlé des petits, mais alors, du coup, moi, je vais vous parler des petits. Donc pour les élèves d'école primaire, donc maternelle et élémentaire, les élèves sont directement en classe. Et on a nous connaissance. Donc moi, je suis éducation nationale, hein, de ces enfants-là, qu'une fois leur arrivée à l'école. Pour tous les élèves qui relèvent du secondaire, donc il y a un premier temps de positionnement qui va évaluer leurs compétences scolaires, donc la plupart du temps, quand on peut, quand c'est possible, dans leur langue de scolarisation, et que ça va nous permettre à nous de lister ou de faire ressortir toutes les compétences déjà acquises de ces élèves-là et nous permettre de faire un lien avec les classes qui vont les accueillir. Donc pour les moins de 16 ans, tous ceux qui sont dans le cadre de l'obligation scolaire, les élèves sont dans leur classe d'âge, donc dans le collège de secteur, et le mode de scolarité privilégié reste l'inclusion. Et donc les élèves sont directement dans leur classe d'âge, avec ou pas un support de soutien linguistique dans des établissements donnés. Bon, ça, je repréciserai tout à l'heure. Et pour les plus âgés, les plus de 16 ans, donc ils ont une double évaluation, leurs compétences scolaires. Et ils sont tous vus par un psy du CIO, par quelqu'un du CIO, qui va essayer d'élaborer avec les jeunes la formation qui va leur convenir le plus. Et ensuite, donc, les fameuses commissions.
Donc, il y a une commission, effectivement, éducation nationale, qui permet, en fait, aux élèves d'être orientés en lycée professionnel, selon en fait après leur positionnement et savoir où est-ce qu'ils ont envie d'aller, surtout quel est leur projet professionnel, et à partir de là il y a effectivement des inscriptions qui se font dans les lycées. Donc moi je peux vous parler un petit peu de l'après, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont arrivés, que ce soit en collège, alors moi j'ai le collège Mandela sur Hérouville, où effectivement j'interviens plus auprès de familles, ce sont des familles qui arrivent avec des enfants. On a très peu de mineurs isolés parce qu'en fait, bah, ils ont 12-13 ans. Et là, c'est quand même plus difficile de traverser la Méditerranée tout seul quand on a 12-13 ans. Donc, c'est plus au lycée La Place où que j'accueille en fait des enfants de plus de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Au collège, quand les familles arrivent avec les enfants, j'ai automatiquement, moi, une fiche de liaison qui me permet de voir qu'effectivement, la famille doit être accompagnée. Donc, moi, je les aide dans l'administratif, hein, tout simplement, en les aidant à rédiger le dossier d'inscription, en essayant de voir quels sont les besoins, où est-ce qu'ils dorment, s'ils dorment effectivement, s'ils sont pris en charge dans un CADA, s'ils n'ont aucune prise en charge, s'ils sont en squat. Voilà. Et on essaye de voir à partir de là, de faire un peu tout le panel de ce dont ils ont besoin. Après, donc tout ça, je le fais toujours dans la bienveillance et, enfin, bien sûr, hein, comme voilà, tout à chacun, mais on va essayer effectivement, parce que la barrière de la langue effectivement est là, souvent, hein, et soit effectivement les familles arrivent avec des traducteurs, des fois je fais appel aussi à d'autres enfants du collège quand il s'agit juste de l'administratif pour m'aider en fait à traduire si c'est une langue un petit peu particulière, ou j'utilise, moi ça m'arrive très souvent d'utiliser Google Translate, donc voilà, ce qui des fois arrive à des quiproquos et qui fait rire beaucoup les gens parce que c'est quelque chose voilà, où on se trompe et ça met un petit peu de gaieté en fait dans l'entretien. Et voilà, j'essaye un peu de balayer tout ce dont ils ont besoin et de voir où est-ce qu'ils en sont sur le plan administratif. Voir aussi, des fois, la sécu, tout simplement. Des choses très, très basiques pour... voilà. Ça, c'est au collège. Une fois qu'ils sont arrivés au collège, tous les enfants aiment être scolarisés. Ça, je tiens à le dire parce qu'en fait... C'est un vrai bonheur pour eux d'être enfin scolarisés après une période parfois de plusieurs mois d'attente. Et l'école est quand même le lieu de sécurité qu'ils attendent. Et vraiment, en général, ils attendent tout de l'école. Après, au niveau du lycée, les jeunes qui arrivent... Alors moi, je suis lycée professionnel, lycée La Place... Alors, je ne sais pas si je dois dire trois noms comme dans les pubs, mais bon, le lycée La Place est un lycée du bâtiment. Donc forcément, on accueille beaucoup de jeunes qui sont en situation, qui sont migrants. Hein, même si effectivement, je disais tout à l'heure que les jeunes n'aiment pas qu'on prononce ce mot de migrant, parce que voilà, ils n'aiment pas du tout ce mot-là. Mais quand ils arrivent, soit ils sont pris par le SAMI, le SAVAMI, enfin tous les services de la direction enfance-famille. Et là, moi, je ne fais pas grand-chose, hein, je dois dire, parce que les éducateurs sont là et interviennent auprès d'eux. Moi, j'interviens effectivement, quand on en a parlé ce matin, des jeunes migeurs, en fait, qui n'ont plus ou de prise en charge, ou ceux qui ont été déboutés de leur droit d'asile en dernier recours à la Cour nationale du droit d'asile. Et là, effectivement, on fait appel à moi parce qu'ils ne savent plus où dormir, ils ne savent plus où aller. Voilà. Et l'internat, j'ai un internat de 450 élèves. Ça permet parfois d'aider les élèves à continuer leurs études parce qu'en général, ils ont commencé leur cursus au lycée La Place et des fois au milieu, voilà, il n'y a plus de prise en charge. Et auquel cas, je vais pouvoir prendre en charge, si je peux, avec le Fonds social, l'internat du lycée. Et puis après, il y a tout l'accompagnement qui va être à côté aussi. Alors ça va être aussi avec Médecins du Monde, puisque je travaille avec Médecins du Monde pour voir un petit peu aussi qui fait quoi. Eux, ils sont aussi un support très intéressant et très impliqué envers les élèves qui n'ont plus de prise en charge. Et puis ça va être les accompagner dans les démarches vers la STI, vers la CIMAD, pour demander un titre de séjour, comment faire. Ça va être mobiliser les professeurs pour pour avoir des attestations de prof, pour avoir des attestations du proviseur. Voilà, c'est le parcours. Là, le parcours du combattant commence. Mais on essaie toujours de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Donc, on essaye toujours de trouver des solutions Alors, des fois, on est un petit peu dans la débrouille parce que les week-ends, ben, le lycée est fermé. Donc, que faire des élèves quand le lycée est fermé ? Ma foi, ben, j'essaye de trouver des solutions via les associations, bien sûr. Et parfois, des familles bénévoles les accueillent, ce qui crée parfois de belles rencontres, de jolies rencontres avec, entre des familles, entre des élèves. Voilà. Et puis, bon, je pourrais en parler pendant des heures. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, y a, quand ils arrivent en scolarité, les élèves n'ont pas tous le même désir. Il y a des espoirs de diplôme, par exemple, qui sont très, très présents chez certaines familles. Familles syriennes, par exemple, il y a beaucoup d'espoirs de diplôme. Les espoirs, on en a parlé ce matin, d'une vie meilleure sur le plan économique dans les pays d'Afrique, où effectivement, là, il faut ramener un petit peu, enfin, envoyer de l'argent au pays pour, parce que ben, c'est la détresse là-bas, c'est la misère, et qu'à un moment donné, c'est l'aîné qui part. Traverser la Libye, traverser voilà, la Méditerranée et arriver en France. Et puis, il y a aussi, alors celle-là, on n'en a pas parlé beaucoup ce matin, ceux qui ont l'espoir d'une couverture médicale, être soignés en France, les familles des pays de l'Est pour lesquelles, effectivement, il n'y a, y a pas de couverture médicale. Et bien souvent, on se retrouve avec des enfants au collège qui ont effectivement une problématique, je dirais, médicale. J'ai eu pas mal de situations d'enfants pour lesquelles on a dû avoir recours, là, en l'occurrence, à la maison départementale du handicap, parce qu'il y avait une enfant, notamment, qui avait une hémiplégie. Je n'avais même pas vu, moi, mais bon, je voyais bien que cet enfant-là, il y avait un œil qui ne marchait pas. Il a fallu l'accompagner vers un neuropsychologue, neuropsychiatre, pardon, et voir effectivement pour s'apercevoir que cet enfant avait une hémiplégie droite qui faisait qu'il y avait tout un pan de l'apprentissage qu'elle ne pouvait pas. Voilà. Et donc, il a, ça a demandé 2 années de travail et, pour l'accompagner vers un IME. Voilà. Ça, c'est des exemples parce qu'on n'en parle pas aussi des enfants qui sont migrants et qui, parfois, ont une autre problématique, ont une problématique autre qui fait que eh ben, il faut trouver d'autres solutions. Et là, là aussi, c'est le parcours du combattant. Mais on y arrive. Donc, voilà. J'ai résumé un peu.
Oui, vous voulez. Voilà. Juste rebondir sur 2 choses. Effectivement, tu évoquais, Sylvie, la question de ces jeunes sont énormément en attente de l'école. Effectivement, une fois qu'ils sont reconnus mineurs, même avant pour certains, leur seule demande, c'est d'aller à l'école. Voilà. Quant à l'heure, j'évoquais effectivement les temps scolaires qui sont organisés sur le site d'hébergement à Missy. Ça peut très vite créer beaucoup de tensions parce que très rapidement, les jeunes peuvent renvoyer « Non, c'est pas là que je veux aller, ce n'est pas ça la vraie école. » Voilà. En parallèle, effectivement, d'établissements scolaires. Pourquoi cette attente ? Parce qu'effectivement, ce matin, on évoquait les jeunes qui sont missionnés et on a aussi des familles derrière qui peuvent mettre la pression à certains jeunes pour trouver un travail et pour pouvoir envoyer de l'argent. Et que du coup, tout le temps où on va à l'école, entre guillemets, est peut-être perçu comme du temps de perdu. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi, il faut aller à l'école le plus vite possible parce que les jeunes comprennent très vite ou en tête, même avant d'arriver sur le territoire français, que pour pouvoir obtenir un titre de séjour, le premier élément qui sera regardé, c'est est-ce que j'ai été à l'école et quel diplôme j'ai obtenu ? Et sur lequel il faut pouvoir répondre auprès des services de la préfecture d'un parcours scolaire exemplaire. Voilà, ça c'est la première chose sur laquelle je voulais revenir. La deuxième chose, c'est une fois effectivement que les jeunes du coup sont reconnus mineurs, qu'ils sont pris en charge par le département dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire, qu'ils ont passé leur test de positionnement, qu'ils ont rencontré les personnes au CIO, qu'ils reçoivent une affectation, ces jeunes-là, ils sont orientés vers des services comme le SAMI de France Terre d'Asile ou le SAVAMI à l'AMDEF. Il faut avoir en tête que ces jeunes-là, à qui on demande d'aller à l'école, en même temps, ils doivent faire l'apprentissage de l'autonomie. Ce sont des jeunes qui sont hébergés en logement, seuls ou en colocation par 2, voire 3. Mais c'est des jeunes à qui on demande de pouvoir gérer un budget mensuel, de faire leurs courses, de savoir laver leur linge, d'entretenir leur logement, sans oublier d'aller à l'école. Voilà. Donc derrière, aujourd'hui, je peux aller à l'école. Il y a un tas d'autres choses derrière qu'on demande à ces jeunes d'assumer à partir de 14 ans.
Moi, je voudrais rebondir aussi sur ce désir d'école. C'est vrai, des enfants... Alors, on a des familles qui sont très éloignées du monde de l'école, très éloignées du monde de l'écrit, mais ça reste vraiment très, très minoritaire. Pour les autres, c'est un Sylvie le disait tout à l'heure, c'est vraiment le lieu où tout va bien. Pour les enfants et pour les familles aussi. Hein. C'est le lieu où on sait qu'on aura chaud, qu'on va nous nourrir si on a faim, on va nous laisser dormir si on est fatigué. C'est le lieu où la police ne viendra pas nous arrêter. C'est vraiment le lieu où on a peur de rien, quoi. Et y compris des familles. Et c'est vrai que ce désir... Alors, parce que moi, je rencontre davantage de familles que de jeunes seuls. Il y a une sorte de surinvestissement de l'école parce que c'est à l'école que tout va se passer. C'est parce que l'élève va être à l'école parce qu'il a la chance d'y être quand les parents n'ont pas pu y aller ou parce que les parents y sont allés et ils ont obtenu des diplômes, l'endroit où tout va se passer, où l'intégration va se faire. Et c'est effectivement, il y a une pression sur les épaules des jeunes parce que pour les parents, leur avenir à eux de parents passe aussi par la scolarisation de leurs enfants. Et donc, c'est vraiment un lieu surinvesti. Et on le voit bien. Ce matin, je ne sais plus, quelqu'un disait que le lieu de scolarité n'était pas pris en compte dans les différences, quoi, etc. On voit, nous, que des élèves parcourent la moitié de la ville et quelquefois en traversent deux pour revenir dans l'école dans laquelle ils ont été scolarisés la première fois. Donc il y a vraiment un attachement fort et avec les autres membres de l'école, enseignants et parents d'élèves, il y a des réseaux qui se créent, qui sont très actifs dans les différents lieux et cette fidélité des élèves qui reviennent dans l'établissement qu'ils connaissent. Et donc, moi, je voulais juste après dire que dans la classe, puisque donc là, quand ils arrivent dans la classe, il y a de plus en plus d'élèves, donc de plus en plus d'enseignants ont déjà été confrontés à un public allophone qui peut paraître très angoissant, puisque les enseignants ont l'impression d'avoir devant eux des élèves qui, pendant 1 heure, 50 minutes ou 6 heures, ne vont rien comprendre de ce qui se passe. Et il y a un sentiment un petit peu frustrant des enseignants qui se disent « c'est pas mon métier que de rester avec quelqu'un qui comprend rien de ce que je lui dis ». Donc, nous, après... au CASNAV et sur les postes du PE2A dont on a parlé ce matin, qui sont les dispositifs de soutien linguistique aux élèves qui sont dans le Calvados, même dans l'Académie de Caen, en inclusion. Il n'y a plus de dispositif fermé où on apprend le français avant d'aller à l'école, mais on a parlé ce matin des échanges entre pairs et c'est avec les autres enfants qu'ils vont apprendre le plus vite. Et donc les élèves sont au contact, sont dans des classes ordinaires avec du soutien linguistique, quelquefois, quand c'est nécessaire, parce que quelquefois c'est même pas nécessaire. Donc j'ai perdu complètement le fil de ma pensée, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Mais toujours est-il, oui, que pour ces enseignants-là, c'est... et nous, notre travail voilà, au CASNAV, parce qu'on fait aussi énormément de formations dans les classes ordinaires, c'est de déconstruire l'image qu'on peut se faire d'un élève étranger, un élève qui ne maîtrise pas la langue, pour en faire juste des élèves. C'est-à-dire que du coup, on essaye, nous, de ne plus en faire des migrants, des parcours difficiles... À l'école, tout le monde est le bienvenu, quelle que soit la situation des jeunes, qu'ils soient en situation régulière, pas régulière. Ce n'est pas du tout le problème de l'école. L'école, elle accueille des élèves parce que c'est son métier et les fait progresser parce que c'est également son métier. Le reste reste accessoire. Moi, j'ai travaillé avec énormément d'élèves dont je ne connais absolument pas le parcours et je ne leur ai jamais demandé. Alors, quelquefois, ils en parlent, d'autres fois, pas du tout. Et pour autant, ça ne m'empêche pas de faire mon travail auprès d'eux. Donc l'histoire de leur parcours, évidemment, on le connaît, on sait que ça peut être difficile, on sait que le soir, peut-être ils vont pas manger chaud, peut-être ils vont dormir dans une voiture. Ça n'empêche qu'on essaye au maximum, quand on les a devant nous, d'interagir comme on ferait avec n'importe quel élève, parce que ce sont des élèves et que nous, en tant qu'enseignants et professionnels de l'éducation, on a devant nous des élèves.
Mais c'est vrai que l'école, c'est vraiment le premier lieu qui permet aux jeunes de se sentir reconnus, parce que souvent, ce sont de bons élèves, ou en tout cas, qui présentent une motivation. Et c'est vrai que les profs renvoient très facilement que c'est très, très agréable de travailler avec des MNA. Mais l'école, c'est aussi le premier lieu d'appartenance pour eux, parce qu'avant d'être MNA, ils sont adolescents. Et du coup, c'est vraiment le premier lieu où ils peuvent créer leur propre réseau. Et on voit très, très vite qu'en quelques jours, si on va acheter des baskets et que ce ne sont pas des Nike ou des Adidas, eh ben, rien ne va plus. Et on sent vraiment, effectivement, des problématiques adolescentes qui ressortent au-delà de la problématique Kemena. Voilà.
Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à l'école... Bien souvent, il y a des familles qui arrivent, qui sont là pendant 6 mois avec leurs enfants qui sont scolarisés. Là, j'en ai eu il n'y a pas très longtemps. Et ils repartent au bout de 6 mois dans un autre, dans un CADA en France. Là, en l'occurrence, c'était Alençon. Mais... Et en fait, les professeurs se sentent désinvestis complètement. Et je leur dis, mais non, c'est pas grave. Ce qui est pris est pris. Et puis, ce que vous avez donné à ces enfants, en termes de scolarité, c'est déjà... Ils ont acquis des choses, ils ont appris des choses. Donc, de toute façon, ils vont être déjà sécurisés en étant dans un CADA. Donc là, pour eux, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, ça ressource un petit peu. Parce que c'est vrai qu'au départ, les professeurs disaient, bah oui, bah, ils s'en vont dans 6 mois. On sert à quoi, nous ? Ben non, vous servez. Il y a eu 6 mois. Ce qui est pris est pris. Ce qui est acquis est acquis. Ça, il faut le savoir. Et les enfants apprennent très, très vite, en fait. On s'aperçoit que bon, plus vite et plus tôt ils sont scolarisés dans leur jeune âge et plus vite ils apprennent. Mais on s'aperçoit que même des jeunes, nous, au lycée La Place, qui arrivent en CAP maçonnerie ou qui arrivent au CAP, ils sont capables de développer une énergie énorme. Et les professeurs, en général, me disent, mais moi, j'ai réappris mon métier de professeur avec eux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'absentéisme. Voilà, on ne leur court pas après. Hein. Moi, je ne leur cours pas après. La commission absentéiste, elle n'existerait plus avec eux. Parce qu'effectivement, comme ils savent très bien qu'au bout du compte, ils doivent prouver à la préfecture qu'ils ont bien été présents, qu'ils ont réussi leur DELF, qu'ils ont réussi leur CAP. Et voilà, donc tout ça, ce sont des moyens pour eux de pouvoir rester en France et d'avoir ou leur titre de séjour ou leur demande d'asile. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que l'école, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour eux. Et parfois, des fois, j'en vois qui me disent, mais je ne comprends pas pourquoi tel élève se comporte comme ça dans la zone d'une même classe. Ils me disent, mais c'est pas normal, comment il parle au professeur, lui. Alors, c'est vrai que des fois, dans une classe, ça permet aussi de remettre au centre des choses. Et ça permet aussi d'avoir une certaine sérénité dans une classe. Voilà.
Merci. Alors, vous avez plus ou moins à demi-mot empiété sur... Enfin, pas empiété, mais disons qu'on peut sentir dans vos propos déjà quelques éléments de réponse sur les questions qui viennent, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'enfant ou le jeune s'engage et se mobilise dans les apprentissages. Voilà, on l'a senti un peu, mais je vais vous laisser développer après. Comment accompagner la scolarisation pour quel parcours ? Qu'est-ce qui facilite ou entrave la progression scolaire de l'enfant et du jeune ? Là, encore une fois, c'est vrai qu'on a senti des choses pointées. Comment ces accompagnements bousculent-ils les identités professionnelles ? Donc, je ne sais pas, Marie Scoffier, peut-être ?
Alors, je pense que là... Je disais tout à l'heure, considérer ces jeunes comme des élèves, c'est très important. Et c'est aussi le but des tests de positionnement au départ. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce jeune, n'importe quel âge, enfin, depuis le CP jusqu'à... Pardon. Donc ce jeune qu'on va accueillir en tant qu'élève, et on va lui parler en tant qu'élève. C'est-à-dire qu'on va chercher à savoir tout ce qu'il sait déjà faire. Et ça, c'est... Alors, je disais tout à l'heure, mais une sorte de reconnaissance. Cet élève-là, il existe du coup pour lui, et pas uniquement pour son image dans la société, mais en tant que lui-même. Et donc, nous, notre rôle aussi, c'est de valoriser toutes ses compétences, parce qu'il va arriver dans une classe, et c'est de pouvoir dire à l'enseignant ou aux enseignants qui les accueillent, voilà tout ce qu'il sait déjà faire. Et d'être accueilli à partir de ces compétences-là, ça motive aussi les élèves. Ça, d'être avec les autres, au milieu des autres, et d'être invisible... Être un élève comme les autres et pas traité différemment, ça, c'est une énorme motivation aussi. Au-delà, après, là, je pensais aux plus petits qui ne sont pas du tout dans une dynamique de diplôme ou de formation professionnelle qui leur permettrait de rester sur le territoire. Mais il y a un investissement parce qu'ils existent d'un seul coup. C'est des familles qui sont quand même... qui préfèrent dormir dans la gare avec leurs deux gamins que de rentrer dans leur pays une fois de plus, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont arrivés et qui ne nous regardent pas. On a quand même une volonté décuplée en fait, chez ces familles-là de s'intégrer dans la société. Et pour les enfants, ça commence à l'école.
Vous vouliez compléter par quelque chose ?
Oui, effectivement. Ce qui reste comme la première motivation des jeunes, c'est effectivement de pouvoir obtenir des papiers à leur majorité. Et effectivement, la question du parcours scolaire est un des trois premiers éléments que regarde la préfecture quand il y a une demande de titre de séjour. Alors, on a des très beaux parcours hein, cette année, l'année dernière, même l'année d'avant. On a des jeunes qui ont été quand même meilleurs ouvriers de France, quand même, c'est à souligner. Par contre, on a aussi des parcours de jeunes à accompagner très compliqués, avec par exemple, encore en juin dernier, une jeune fille qui venait de Mongolie, qui a obtenu un CAP, petite enfance, et qui a eu une obligation de quitter le territoire français, justifiée par le fait que son parcours scolaire n'était pas assez exemplaire. Voilà. Il faut imaginer que 2 ans avant, elle ne parlait pas français. Voilà. Mais c'est pas pareil. Enfin, ça ne se passe pas comme ça pour tous, mais ce sont des choses qui arrivent. Peut-être dans ce qui peut venir entraver la question de la progression scolaire, il ne faut pas oublier que ces jeunes qui ont parfois 14-15 ans sont mis à distance et coupés complètement de leur famille. Et du coup, quand on a 14 ans, qu'on est adolescent, comment on fait pour être disponible pour tous les apprentissages nécessaires pour obtenir un diplôme quand on est loin de sa famille et qu'on ne sait pas quelle sera la suite? Juste peut-être un petit exemple. Il y a quelques mois, on avait un jeune au service, reconnu mineur, scolarisé. Et en fait, un jeune pour lequel, qui venait de Guinée, alors c'est sa mère en fait, avec qui il avait quelques contacts épisodiques, qui a clairement décidé de couper tout lien avec lui, en lui disant, j'ai eu ton cousin au téléphone qui lui est en Grande-Bretagne, il travaille, il peut m'envoyer de l'argent, il m'a dit que toi, tu avais un appartement, tu avais de l'argent pour manger et tu allais à l'école. Donc en fait, tu ne fais rien. Elle lui a dit, je ne reprendrai pas contact avec toi tout le temps que tu n'auras pas un vrai travail et que tu ne pourras pas envoyer d'argent. Donc alors quand on évoquait la question du poids qu'ils peuvent avoir sur les épaules, pareil, c'est aussi une réalité. Après, juste peut-être, je te laisserai la parole, Sylvie, sur en termes d'accompagnement éducatif, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes? Alors, je parlais du Savami, parce que c'est ce que je connais le mieux. Au Savami, en tout cas, il y a une équipe d'éducateurs qui sont présents tous les jours. Donc, les jeunes, après les temps de collège ou de lycée, passent facilement au service. Mais on met aussi en place des temps de soutien. En fait, on essaie d'organiser des groupes. On travaille avec différentes associations, la FEV, entre autres, voilà, qui se déplacent 3 fois par semaine. Et après, en fonction des compétences de chacun des éducateurs, on organise des petits groupes de soutien pour que les jeunes puissent être accompagnés pour faire leurs leçons ou accompagnés dans leur scolarité. Ça peut être aussi des petits jeux de rôle, par exemple, quand il y a des présentations de stage, des oraux à préparer en période d'examen, choses comme ça.
Alors oui, je peux peut-être rebondir par rapport à... Alors, je ne veux pas du tout plomber l'après-midi, mais c'est vrai qu'on a eu, on a eu quelques histoires là dernièrement avec 2-3 jeunes qui n'ont pas eu du tout leur papier et pourtant ils ont eu un parcours exemplaire. J'en ai eu un qui est parti aussi aux Olympiades, aux Olympiades de métier, qui a été... qui a eu un prix au niveau du département du Calvados. Et puis après, il devait partir aux Olympiades en région. Et malheureusement, ce jeune était migeur. Voilà. Et donc là, effectivement, il n'a pas eu du tout ses papiers, malgré son parcours exemplaire. Mais je dois dire qu'à côté de ça, on a aussi beaucoup de jeunes qui reviennent me voir 1 an, 2 ans après et qui ont un travail. J'en ai un qui bosse dans le BTP, forcément, les métiers du bâtiment, qui bosse dans une grosse boîte, alors je ne sais plus, de BTP, qui gagne très très bien sa vie. Même quand il m'a dit son salaire, j'ai dit c'est mieux que moi. Voilà, j'étais très contente pour lui. On a des situations en fait... vraiment de jeunes qui s'en sortent très très bien, qui sont devenus peintres ou qui sont devenus couvreurs et qui reviennent régulièrement. Pour vous dire aussi que l'école est quelque chose de très très important. Samedi matin, je suis allée à la remise des diplômes des CAP et ils étaient tous là, sur leur 31, c'est-à-dire chemise blanche. Pas de cravate quand même, mais très très bien sapés pour pouvoir. Ils étaient tellement fiers d'être sur la photo et de pouvoir montrer le diplôme à tous les gens qui étaient là. Et vendredi prochain, là, c'est la remise. Vendredi soir, c'est la remise des DELF du diplôme en fait de langue française. Marie, tu me redis de langue française. Et là, on a le lycée, on a invité aussi les éducateurs à venir du SAMI, du SAVAMI, éventuellement de tous ceux qui ont accompagné. Et ça, c'est une grande fierté pour eux. C'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, et montrer qu'effectivement, ils ont un diplôme, c'est quelque chose de, à la fois de très rassurant, de très... c'est une grande fierté pour eux, vraiment, de valorisant. Voilà. Après, c'est vrai que en collège, là, actuellement, j'ai beaucoup de familles qui sont en squat et pour lesquelles on se demande toujours... Moi, je me demande toujours où ils vont trouver les ressources nécessaires pour venir le matin, bien habillés, enfin, habillés, voilà, comme ils peuvent, mais toujours à peu près propres, alors qu'ils ont dormi, je ne sais pas où. Voilà, c'est vraiment... et ils sont à l'heure. Donc, je me dis, bon, chapeau bas, quand même. Et l'école doit toujours avoir cette fonction-là, c'est-à-dire d'accueil et de bienveillance. Et on ne doit jamais l'oublier, parce que c'est vraiment le seul lieu où ils peuvent avoir un peu de sécurité. Voilà.
Ajouter quelque chose par rapport aux parents et à l'accueil des parents dans les établissements. Donc il y a un dispositif qui s'appelle ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, qui existe depuis 2007 ou 2008 et qui consiste à offrir aux parents d'élèves allophones des heures d'enseignement de la langue française, de la connaissance du système scolaire et des valeurs de la République. Donc ça existe maintenant sur 5 sites à Caen, 5 collèges qui proposent, donc pas uniquement aux parents de leurs élèves, mais c'est sur un secteur, donc des cours qui sont proposés par des professeurs et dont le but est vraiment d'amener les parents dans les établissements scolaires, de leur expliquer comment ça fonctionne, parce que même pour des élèves qui ont été scolarisés tout à fait normalement dans leur pays d'origine, on a quand même quelquefois des systèmes éducatifs complètement différents et des attentes du comportement de parents complètement différents. C'est-à-dire que nous, on s'attend dans les écoles à ce que les parents viennent nous voir, s'intéressent, posent des questions. Il y a plein de pays où, au contraire, c'est deux mondes séparés. Et la plus grande preuve de confiance que peut faire un parent à l'école, c'est de surtout pas se mêler de ce qui s'y passe. Donc on a comme ça des malentendus quelquefois qui se résorbent dans le cadre de ces cours-là, qui sont plutôt, paraît, très conviviaux et très bienveillants. Et ça se généralise. Donc là, cette année, il y a 5 dispositifs sur Caen et un dispositif à l'étude sur Vire et un sur Lisieux, donc pour l'année prochaine.
Alors, on arrive au troisième temps, du coup, plutôt le temps après scolarisation ou le temps où il va falloir se poser la question... accompagner éventuellement les renoncements, les parcours plus difficiles, parfois détruits ou perturbés, et comment faire face en tant que professionnel avec la désillusion des jeunes et le désarroi.
Alors, ce qui est très difficile, c'est effectivement quand il y a une OQTF qui arrive, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, et qu'à ce moment-là, les jeunes se disent voilà, c'est la fin. S'il arrive qu'au lycée, même après un CAP, on continue, on fait une mention complémentaire dans un autre cycle, c'est-à-dire qu'on essaye de donner du temps au temps, c'est-à-dire d'allonger le temps, je ne sais pas comment on fait pour allonger le temps, mais bon, pour qu'effectivement ils puissent rester encore un petit peu en France, toujours, étant qu'ils sont scolarisés, ils sont protégés. Donc voilà, mais ça peut être aussi parce qu'il faut se bousculer soi-même quand on est et de parler de ça, de dire est-ce que tu penses repartir dans ton pays? Ça, il faut l'aborder parce que c'est quelque chose qui risque à un moment donné d'arriver et si c'est un petit peu préparé, c'est déjà un tout petit peu moins douloureux, même si effectivement j'ai eu des réponses du style aller en prison en France plutôt que de retourner dans mon pays. Voilà, j'ai eu des réponses comme celle-ci, mais il y a des fois où on avance petit à petit parce que il y a des jeunes qui, je leur dis, mais t'as un diplôme, tu peux aussi aider à reconstruire ton pays, à être dans une autre dynamique. Voilà, mais il faut se bousculer soi-même et renoncer soi-même à des idées reçues, à des choses, et faire un travail sur soi aussi en tant que travailleur social. Moi, Ça m'a bousculé aussi. Hein. Faut renoncer aussi à ses propres idées des fois Et puis, voilà, savoir évoluer, parce que moi, je suis assistante sociale au sein de l'éducation nationale. Donc, j'ai un cadre, il y a des lois, il y a des choses auxquelles je ne peux pas... je dois me soumettre. Et en même temps, j'essaye de trouver des solutions pour les aider quand même. Et, mais je suis aussi citoyenne, donc tout ça dans ma tête, ça se bouscule. Et voilà, donc à un moment donné, il faut aussi savoir travailler tout ça et se poser les bonnes questions avec les jeunes quand ils sont en capacité de l'entendre. Parce qu'effectivement, il faut attendre ce moment-là aussi. Parce que des fois, c'est un peu violent quand même. L'OQTF, quand elle arrive, elle est relativement violente. Et là, la désillusion, elle arrive, elle est très dure. Et puis, il y a toutes les familles aussi qui n'ont jamais eu de prise en charge, qui dorment en squat depuis 4-5 ans et qui restent là et qui sont dans des problématiques de misère sociale énorme. Et puis, il faut aussi essayer de trouver des solutions. J'ai une maman l'année dernière qui m'a dit « Vous ne voulez pas adopter ma fille ?» Ben, je lui ai dit « Non, je crois que ce n'est pas possible. » voilà, donc on est dans des situations aussi des fois un peu ubuesques. Mais je pense qu'il faut toujours voilà, garder le moral, essayer d'avancer et d'avancer toujours avec eux. Voilà. Mon avis
sur le renoncement. Alors peut-être pour ne pas être redondante par rapport aux OQTF, peut-être un autre exemple aussi de désillusion, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui arrivent avec dans leur tête un projet tout fait, ou parce qu'eux l'ont pensé, ou parce qu'ils ont été missionnés comme ça. J'ai le souvenir d'une jeune fille, par exemple, à peine 15 ans, et du coup, le jour où la question de la scolarité se pose, elle nous explique de toute façon qu'elle sera médecin, et que ce ne sera pas autre chose. Parce que les esprits au village ont dit qu'elle serait médecin. Et là, du coup, la question de la temporalité, elle est très compliquée parce qu'on a une scolarité qui est possible et qui est nécessaire là, maintenant. Et on a une jeune fille avec qui on a besoin d'avoir du temps pour l'accompagner sur le fait que non, elle ne pourra pas. Nous, regard, nous adultes, au regard des éléments qu'on a à ce moment-là, on sait qu'elle ne pourra pas être médecin. Sauf qu'on est avec des jeunes en parallèle de la scolarité, avec qui on travaille l'estime de soi, la confiance, la question de se reconstruire et qu'on ne peut pas lui dire « Ben non, écoute ma cocotte, t'es bien jolie, mais tu ne pourras pas être médecin ». Et qu'on a besoin de temps, et que ce temps-là, on ne l'a pas forcément. Et ça aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on doit accompagner ces jeunes, sur le plan éducatif, à renoncer parfois à un projet dans leur intérêt, alors qu'eux ne sont pas du tout prêts à l'entendre à ce moment-là.
Bah, j'ai envie de dire que dans le cadre du scolaire, on n'est pas tellement sur le renoncement, puisque quand un enseignant a un jeune dans sa classe, bon, bah, il fait comme s'il allait rester toute sa vie, et à aucun moment on se dit... Enfin, on devrait se dire, mais je pense qu'on se dit peu, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'intéresse à lui ? On ne sait pas quand il va repartir. Donc non, l'élève, il est là dans la classe, il sera là, et l'enseignant, il fait comme si, comme si l'élève allait rester comme n'importe quel autre élève, quoi. Donc dans les classes, alors c'est effectivement autour de l'école que ça se passe, hein, où il y a là des réseaux d'enseignants, de parents, qui ensuite accompagnent les familles qui sont dans des situations voilà, qui ont reçu un OQTF ou qui perdent un logement, ou etc. Mais dans, au sein de la classe, ça, donc alors, ce que disait Sylvie, hein, quelquefois les enseignants quittent leur posture d'enseignant pour devenir militants, mais c'est deux temps différents. Et ouais. Il y a pas non, ben, j'imagine. Mais donc voilà, je pense qu'il est sain pour chacun de faire la part des choses entre le professionnel et puis le citoyen, et d'agir en conséquence à chaque moment, quoi.
Et alors, une dernière petite question que j'ai décrochée des autres volontairement, mais quelles sont les disponibilités pour apprendre, justement, quand on dort dehors, quand on survit, etc.
Ça dépend. Là, on est vraiment sur des individus et des caractères et des situations complètement différentes. Il y a des élèves qui vont s'investir à fond, c'est-à-dire que ça va être l'endroit refuge. Hein. Pendant que j'apprends les maths, je pense à rien d'autre. Et du coup, je fais ça à fond. D'autres qui, effectivement, sont tellement entravés par... Ils veulent tellement oublier qu'ils ne peuvent plus rien retenir, puisque, du coup, on efface tout. Là, on est vraiment... Ça dépend. C'est très individuel. généralement, quand même, on arrive sur des élèves qui s'investissent dans les apprentissages, et que ce soit à tous les âges. Et ce que disait Cynthia tout à l'heure est très vrai. Les professeurs, notamment les profs d'atelier dans les lycées pro, sont très enthousiastes avec les élèves allophones, en disant qu'effectivement, ils sont très motivés, qu'ils sont très sérieux, qu'ils sont très respectueux et qu'ils entraînent quelquefois, ils réussissent à entraîner les autres élèves dans les apprentissages.
Mais c'est vrai que quand ils sont entravés un peu comme ça, la semaine dernière, j'avais un jeune du... je sais plus si au Samy ou au Savamy, mais qui n'était pas bien du tout parce que voilà, il pensait à sa famille et voilà. Et ben moi, mon rôle, ça va être effectivement d'appeler l'éducateur ou l'éducatrice qui est présent et soit de venir le chercher, soit de voir pour un rendez-vous avec la psychologue de l'ADEF et de passer le relais. Parce que là, ce jour-là, le professeur a bien vu, il était bienveillant, il a bien vu que le jeune était complètement empêché dans sa tête, qu'il n'arrivait pas du tout à travailler. Donc à un moment donné, il fallait aussi passer le relais à quelqu'un d'autre. Voilà, mais c'est vrai que Marie a raison, c'est tellement différent d'un enfant à l'autre, d'un jeune à l'autre, les réactions sont totalement différentes. Le principe, c'est aussi qu'ils puissent verbaliser les choses, que quand ça ne va pas, ils puissent le dire à un adulte, n'importe quel adulte du collège ou du lycée, mais qu'à un moment donné, ils puissent le verbaliser et en parler. Parce que je pense que vraiment, là, c'est aussi le début, pas de la guérison, mais disons de régler un petit peu leur difficultés, leurs problèmes. Et voilà, parce que quand tout est retenu, effectivement, c'est là où ils sont empêchés et c'est là où ils n'arrivent pas du tout à travailler. Moi, c'est... Voilà.
Merci. Vous vouliez rajouter ? C'est bon ? Alors, je crois qu'il est de toute façon... Oui, l'heure de passer aux questions. Donc, je vais... courir dans la salle.
Alors, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos interventions qui sont très intéressantes et enrichissantes. Donc, moi, je m'appelle Fatima, je suis étudiante en Master 2 en sciences de l'éducation ici à Caen. Et parallèlement, je travaille en tant qu'assistante d'éducation. Et l'année dernière, j'ai fait mon stage avec la classe allophone dans le lycée où je travaille. Et je voulais revenir justement sur la dernière question des désillusions, du désarroi par rapport à ces élèves. Et en fait, l'année dernière, j'ai travaillé au secrétariat du bac, juste un exemple comme ça. Et j'ai pu rencontrer une élève en particulier qui était allophone, donc anciennement allophone, et qui s'est battue pour arriver jusqu'au bac. Et elle était dans mon jury. Et donc, question d'anonymat, je ne dois rien dire. Je ne dois pas parler de la situation de l'élève. Cependant, on sait que pour ces élèves, il n'y a aucun aménagement, il n'y a pas grand-chose de fait, et on ne sait pas, en fait, leur passé. Donc, sur la question de l'inclusion, moi, je me suis demandé, est-ce qu'on les prend aussi, bien sûr, comme tous les autres élèves ? Et donc, il y a cette question de l'anonymat. Mais à côté de ça, est-ce qu'on met en place des aménagements ou est-ce qu'on le fait paraître ? Parce que finalement, elle n'a pas eu le bac et le jury a décidé de ne pas donner, c'était 0,2 points, je crois, pour qu'elle ait son bac. Et à l'annonce, j'ai dû faire face à une jeune fille, mais abasourdie. Enfin, elle ne savait pas comment se remettre. Et pour elle, l'enjeu d'avoir son bac était vraiment l'enjeu même pour rester sur le territoire, quoi. Donc ça m'a posé beaucoup de questions. Voilà.
Ça interroge. Les aménagements aux examens sont réservés aux élèves en situation de handicap. Alors, la question se pose régulièrement et dans les établissements. Les profs sont très, très demandeurs d'un texte qui cadrerait les examens. Les élèves allophones nouvellement arrivés sont déjà considérés, sont des élèves à besoins éducatifs particuliers, ce qui entraîne déjà une confusion des genres et qui, généralement, en fait des élèves en difficulté dans la tête des équipes enseignantes. Leur proposer des aménagements du type des aménagements qu'on propose aux élèves en situation de handicap, à mon avis, ne serait pas une bonne idée. Après, effectivement, au moment de l'harmonisation, les 0,2 points qui manquent, bon, c'est un peu raide, effectivement, de ne pas lui donner... Jusqu'à maintenant, la position du rectorat était de dire on ne présente les élèves aux examens que s'ils sont en mesure de les avoir. Bon, voilà, dans un système d'équité avec les autres élèves, en fait. Mais la question se repose avec les nouvelles modalités du bac, puisque les premières épreuves arrivent très tôt. Et donc, il y a une discussion qui est lancée, des questions qui sont posées à la direction générale. On attend des réponses.
Après, les élèves qui passent les CAP, en général, enfin, je ne sais pas en général, ils sont en contrôle continu toute l'année. Donc, on est... voilà, c'est différent. Il y a effectivement une note finale, mais c'est du contrôle continu toute l'année. Donc... Il y a beaucoup d'attention, de bienveillance, mais voilà, il n'y a pas de cadeau non plus. Je pense que c'est intéressant aussi que les jeunes soient confrontés à des examens et que leur diplôme ne soit pas un diplôme en carton. Voilà.
Non, c'est sûr. Après, il y a beaucoup plus de souplesse, dans les, notamment le contrôle continu en CAP, dans les modalités de passation que dans les examens nationaux type DNB ou baccalauréat. Et les notes... Parce qu'effectivement, c'est pas, ils n'ont pas voulu leur CAP. Les notes d'atelier comptent énormément dans la note finale, ce qui permet de compenser un petit peu les disciplines ordinaires, enfin ordinaires, classiques.
Donc, bonjour. Comme le disait Mme Van Meck, je suis professeure de FLE dans la structure donc, d'accueil et de mise à l'abri pour les MNA en cours d'évaluation. Donc, ça fait déjà 2 ans. Et donc j'ai pu suivre vraiment l'évolution des publics, les engorgements de ces structures, parce qu'on est monté vraiment à devoir ouvrir plusieurs structures, ce qui a été problématique sur l'enseignement du français. Donc au tout départ, on avait vraiment un volume horaire qui était assez important, avec un nombre d'élèves qui était moins. Moi, quand j'ai commencé, ils étaient 40 en tout. Et je suis montée juste pour la classe de FLE à presque 35 dans la même classe. Et la question... qu'on se pose, c'est la place du français lors de la phase de l'évaluation. Est-ce qu'il serait assez intéressant de pouvoir proposer un dispositif linguistique formel de formation avant même l'entrée en scolarisation dans l'éducation nationale ?
Alors, j'ai pas bien compris. De quelle évaluation on parle ?
Avant l'évaluation de minorité. Donc, tout ce temps, on sait très bien
que les tests le temps de latence. Les tests de possession, les tests d'éducation nationale soient faits, c'est ça ?
Oui, et qu'ils soient proposés un enseignement du français comme langue étrangère, de l'alphabétisation en amont, pour faire gagner du temps à ces jeunes qui en manquent.
Oui, alors après, ça, je ne sais. Ouais.
Merci, Marie. Les jeunes, dans le département du Calvados, le choix qui a été fait, c'est que les jeunes soient scolarisés à partir du moment où ils sont reconnus mineurs. D'accord ? Ça veut dire qu'ils ne pourraient pas être scolarisés avant d'être reconnus mineurs. Le département du Calvados a fait ce choix-là. Pourquoi ? Parce qu'on trouvait compliqué de proposer aux jeunes une scolarité alors qu'un mois, 2 mois après, si jamais ils n'étaient pas reconnus mineurs, en plus de leur dire « t'es pas pris en charge parce que t'es pas reconnu mineur, ça fait 1 mois que tu vas à l'école, tu trouves tes repères, et ben ça aussi, il va falloir que tu arrêtes ». Donc aujourd'hui, c'est le département du Calvados qui a fait ce choix-là, que les jeunes soient scolarisés une fois qu'ils sont reconnus mineurs. Pour autant, tous les temps que vous avez organisés qui se passent sur le site de MICI, où sont hébergés les jeunes, et je me retourne vers toi, Marie, mais je sais que l'éducation nationale reconnaît qu'effectivement, il y a un réel bénéfice à tout ce que peuvent découvrir ces jeunes et qui leur sert. Et l'idée, au même titre que tu le disais tout à l'heure, Sylvie, c'est tout ce qu'on peut leur apporter sur ce laps de temps. Peu importe la manière dont on l'organise, mais tout ce qu'on peut leur apporter là, quelle que soit la suite pour eux, quel que soit leur projet, ça leur servira forcément. Et c'est dans cette optique-là que les choses elles ont été pensées de cette manière-là.
Oui, ainsi. Juste là, pendant que... Bravo. Parce qu'une fois de plus, je disais l'autre fois à Cynthia que quand on accueille les jeunes donc, qui ont été évalués mineurs et quand on les reçoit en test de positionnement, il n'est pas rare qu'on ait des jeunes devant nous qui nous disent « je n'ai jamais mis les pieds à l'école ». Et là, on dit « mais où as-tu appris tout ça ?» Parce qu'ils sont déjà, ils sont apprentis lecteurs, enfin, ils ont fait énormément de progrès, ils nous disent « bah, à l'école à Missy ».
Juste la petite chose, c'est qu'on avait réussi à ouvrir en fait une petite structure en dehors de MICI et qui avait eu beaucoup de bénéfices. J'ai rédigé justement mon mémoire de master que j'ai soutenu au mois de septembre dans ce sens en expliquant les difficultés liées à l'enseignement à l'intérieur de la structure d'habitation. Les jeunes ont du mal à faire la part des choses entre vraiment le professeur-professeur, l'animateur-animateur, mais aussi sur les lieux en eux-mêmes, car on n'a pas vraiment de lieu en fait, à Missy qui soit vraiment dédié à la classe. Et on a du coup un volume horaire qui s'est beaucoup rétréci. De janvier 2019 à juin 2019, les élèves qui venaient donc, dans les locaux qu'on louait au CIFAC, donc au Sésame, venaient en moyenne une vingtaine d'heures par semaine, ce qui est énorme pour ceux qui apprennent le français, pour ceux qui sont en cours d'alphabétisation. On avait réussi à mettre en place donc, le français pour, en FLE, l'alphabétisation, mathématiques, sciences, histoire, géo. Et du coup, les jeunes étaient, avaient presque l'impression d'aller à la vraie école et en étaient très contents.
Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que pour moi, ce n'est pas l'objectif de l'après-midi. Effectivement, on est revenu à un fonctionnement initial sur la structure de Missy avec des enseignements organisés à partir de la structure de Missy pour des raisons purement budgétaires et politiques liées au département. Et voilà. Après, l'idée, c'était que les jeunes puissent avoir un bénéfice à un moment donné. Aujourd'hui, ce bénéfice, ils l'ont toujours par la manière dont les choses sont organisées à partir de Missy et répondant au projet initial comme il a été pensé et organisé dès la mise en place de la structure.
Oui, bonjour. Je suis péricultrice en PMI. Et donc, moi, c'est la question effectivement des très, très jeunes enfants qui sont effectivement scolarisés en maternelle, voire en primaire. Et quel est en fait aussi eh bien, les apports que vous faites auprès des enseignants aussi dans les petites écoles et non pas effectivement qu'à Caen. Et voir comment en fait, qu'est-ce qui est proposé, parce que moi je suis effectivement une famille de migrants, et qu'est-ce qui est proposé aussi dans l'extrascolaire, parce qu'on sent qu'effectivement il y a l'école qui est support, il y a aussi la famille, mais il y a aussi tout ce qu'on pourrait nous apporter en plus pour la socialisation d'enfants qui, effectivement, ils sont très bons élèves, on sait, hein, même en maternelle, et des enfants qui ont des grandes capacités au niveau du langage. Et puis après, effectivement, les familles ont beaucoup de mal aussi, en dehors de l'école, à ce que les enfants aillent au centre de loisirs. Comment on peut lever, en fait, parce qu'il y a des freins aussi à l'intégration, des freins à l'inclusion en dehors du monde scolaire. Comment on peut faire, dès le plus jeune âge, pour faire en sorte que la famille ait confiance aussi vers l'extérieur et vers les choses qu'on pourrait apporter aux tout-petits.
Moi, les familles avec lesquelles j'ai travaillé, donc forcément parents d'élèves, donc élémentaires, le problème de la confiance n'est pas vraiment apparu. Et généralement, que ce soit à l'école ou même dans les structures qui sont autour de l'école, si elles sont accompagnées, ça n'a jamais posé de problème. Après, on va avoir sur les haltes garderies les mêmes difficultés que pour n'importe quelle autre famille qui sont des listes d'attente interminables et du temps. Voilà, on est sur un autre domaine du temps. Après, dans les écoles, à l'école maternelle, il n'y a aucun dispositif spécifique à l'accueil des élèves, puisque ça se fait en classe. C'est-à-dire que ça va se faire avec les copains et travailler avec un enfant de 4 ans. Enfin, si je débarque dans une école maternelle pour travailler le langage avec un enfant de 4 ans, j'ai rien gagné. Ce qui sera quand même beaucoup mieux dans la classe pendant tout ce temps-là avec ses copains, plutôt qu'en tête-à-tête avec moi où il va rien dire parce que je vais lui faire peur. Donc là, après, il y a juste la posture de l'enseignant qui va aider l'élève. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle soit effectivement accueillante, qu'elle lui parle, qu'elle le regarde, qu'elle le sollicite. Et généralement, les élèves en maternelle, très vite, on oublie hein, qu'ils ont été un jour allophones. En élémentaire, tout va dépendre également du profil de l'élève. Si on a, et puis de sa situation géographique, mais surtout du profil de l'élève. Si on a un élève qui n'a jamais été à l'école et qui est en CE2 ou CM1, CM2, il va avoir probablement un suivi spécifique d'apprentissage systématique de la lecture-écriture en même temps que l'apprentissage de la langue. Un élève qui a été scolarisé et qui arrive avec un niveau équivalent à celui de sa classe d'âge, il va, alors peut-être il y aura du soutien linguistique, mais il a surtout, lui, besoin, c'est lui qui va travailler tout seul. C'est-à-dire qu'il va être très fatigué, c'est vrai. Mais c'est lui qui va faire les transferts, qui va dire, ah, ça, je reconnais, j'ai déjà fait ça, ah, ça se dit comme ça, et tout ce travail-là, il va le faire. Et ce que disait Sylvie tout à l'heure est très vrai, plus l'enfant arrive jeune, et plus tout ce travail-là se fait rapidement et naturellement. Et à l'école élémentaire, ça marche encore. Ensuite, sur les partenaires, ça dépend. Sur les petites structures, c'est pareil. Et même la maternelle, il y a aussi des familles qui arrivent où confier son enfant de 3 ans, 4 ans à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est encore un bébé. C'est l'âge où il reste avec la mère. Donc ça, c'est pareil. Ça s'explique. Aujourd'hui, l'école est obligatoire à partir de 3 ans, hein, ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'année dernière. Et là, bon, ça se prépare aussi. Il y a des cultures dans lesquelles ben, on ne confie pas son enfant à un inconnu s'il a moins de 5 ans ou 7 ans. Et, donc voilà, ce serait comme confier son bébé si on n'a pas besoin. Quoi. Donc, mais après, ça s'accompagne. On a eu des familles qui allaient, qui déposaient volontiers leur bébé en halte garderie, notamment pour participer à ouvrir l'école aux parents. Enfin, voilà. Il faut les accompagner. Oui, c'est ça. Après, mais là, ça, les difficultés rencontrées vont être les mêmes que pour n'importe quelle famille qui voudrait avoir accès à la halte garderie.
On a connu un petit peu ce problème-là il y a 2 ans, hein, Marie, quand il y a eu l'école ouverte aux parents, par rapport où c'était le centre socioculturel qui était venu pour voir, effectivement, pour permettre aux familles, enfin aux mamans qui voulaient venir à l'école ouverte, bah, pouvoir confier leur enfant. Parce que, effectivement, même eux, elles, si elles avaient envie d'apprendre le français, il fallait bien, quand ils avaient un bébé de 6 mois, d'un an, bah, pouvoir confier. Donc, on avait fait appel hein, au centre socioculturel pour... Alors après, voilà, c'est trouver des solutions comme ça. On avait fait un partenariat. Je ne sais plus si ça a bien marché ou... Voilà, mais je ne sais plus. Mais c'est toujours essayer de trouver des solutions.
J'ai souvenir de poussettes dans les couloirs, donc ça a dû marcher moyennement.
Voilà. Oui, les familles ont du mal à lâcher souvent leur bambin, mais ce qui est tout à fait normal. Hein. Voilà, c'est une situation un peu compliquée et difficile. Et pour nous faire confiance, il faut aussi du temps. Et puis l'accompagnement vers des structures telles que les centres sociaux, etc., il faut aussi du temps. Mais ça, c'est tout je dirais toutes les familles aussi. Hein. Ce n'est pas que les familles migrantes, étrangères. Voilà.
Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Bon. écoutez, donc je reprends la parole du coup, pour vous remercier beaucoup de vos interventions. Également pour dire, on a beaucoup parlé donc, des enfants allophones, etc., là, avec la place dans la classe, etc. Donc je crois que ça fait une belle transition pour la conférence de Cécile Goy qui va être projetée. Donc je vous remercie beaucoup, mesdames, et merci à vous aussi.